Le Printemps de l'éducation est une association d'intérêt général, indépendante, à vocation nationale, à but non lucratif. Il a pour finalité de recenser, faire connaître, promouvoir et démultiplier des approches éducatives centrées sur l'épanouissement et l'intérêt de l'enfant. Cette initiative est née de rencontres entre enseignants, éducateurs, parents, grands-parents, mais aussi enfants, ainsi que représentants d'associations, d'entreprises, de collectivités. Tous font en effet le constat que face à l'accumulation de problèmes de plus en plus préoccupants, sans qu'aucune réforme ambitieuse et innovante ne soit vraiment à la hauteur des enjeux, il y a plus que jamais urgence à repenser, à réinventer l'éducation. Parmi ses objectifs et actions, l'association souhaite créer un réseau d'acteurs du renouveau éducatif et mettre en place des rencontres locales Printemps de l'éducation dans toute la France. C'est à l'occasion de ce Tour de France, qui s'est déroulé le dernier week-end d'avril, que j'ai pu rencontrer quelques-uns de ces actrices et acteurs à l'école Montessori de Blois-Vienne, qui a accueilli dans ses locaux un village de l'éducation, avec des ateliers bien-être tels que shiatsu relaxation parent-enfant, peinture intuitive, méthode éducative 3C, C voulant dire calme, concentration, contrôle. Vous allez faire la connaissance de 10 coups de pédale, du jeu de la corbeille, du stop-motion, du sel et de l'école des fruits du savoir. Mais commençons par la soirée ciné-débat du vendredi autour du film « Nos enfants nous accuseront » de Jean-Paul Jaud, projeté au centre social La Chrysalide à Vineuil, débat animé par le docteur Brie, pédiatre, et monsieur Gruffat, président de l'enseigne nationale Biocop et fondateur des deux magasins de Blois et Saint-Gervais. Bande annonce.
Et bonjour les enfants.
Bonjour.
On a les brioches de l'école publique de Varjac.
Et est-ce qu'elles sont bio?
Oui, elles sont.
Et ça veut dire quoi, bio?
Pas traité.
Pas traité, bravo.
A scientist in the United States this past spring made the observation that this generation of children is the first generation in modern history that is not going to be as healthy as their parents. That should not be.
Moi, j'ai travaillé 10 ans en agriculture chimique et il y a des choses que j'aurais jamais mangées que je faisais, quoi. Ça, c'est clair.
On s'était dit qu'on ne prononcerait pas le mot cancer.
Aujourd'hui, je milite pour que dans toutes les maternelles et dans les hôpitaux, dans les écoles, que les cantines soient bio.
Le coût de la santé, ça n'a pas de prix. Ne surtout pas faire passer les comptables d'abord. Faites passer votre conscience en premier.
Le projet sur Barjac, c'est de tendre vers la bio, mais c'est aussi de faire une alimentation de qualité au quotidien, avec le plus possible d'approvisionnement local ou de proximité.
Il est clair qu'aujourd'hui, le problème n'est plus de se poser la question, il manque la volonté politique. Il faut que cette volonté politique soit au rendez-vous.
Bonsoir. Donc Philippe Brich, donc je suis pédiatre. Intéressé par tout ce qui est alternatif, que ce soit dans la façon de soigner ou d'appréhender les causes des problèmes. Ma première réaction, c'est que nécessairement le film ne peut présenter que quelques aspects symptomatiques du problème. Donc on a beaucoup insisté sur les cancers comme risque sanitaire principal du non-bio. Maintenant, entre l'état de pleine santé et la maladie gravissime, il faut comprendre qu'il y a tous les intermédiaires. Ça peut aller d'un changement de comportement, un enfant plus irritable, qui a plus de mal à se concentrer, qui a des troubles d'apprentissage scolaire, des troubles psychologiques, des allergies, de l'asthme, des maladies chroniques de la peau, des maladies, on a parlé du diabète. En fait, c'est toute la pathologie humaine qui est augmentée, avec certes des nouvelles maladies, mais aussi des maladies déjà anciennes, mais qui ont explosé dans les chiffres.
Merci. Bonsoir. Donc moi, pour me présenter en deux mots, je suis donc Claude Gruffat. Mon parcours vient du monde agricole, puisque je suis né dans l'agriculture, fils de paysan en Haute-Savoie, donc dans une région de montagne où l'agriculture n'a pas tout à fait, et il y a 30 ans ou 40 ans, n'avait pas tout à fait la même tête qu'ici, dans les zones de grande production. Et dans mon parcours de conseiller agricole que j'ai pratiqué pendant plus de 15 ans, ça m'a amené à faire des constats qui m'ont choqué. Début des années 80, à voir le constat dans le monde dans lequel on amenait les agriculteurs et les échecs qu'on arrivait à avoir sur un plan économique et les désastres humains que provoquait le modèle agricole productiviste et du gigantisme de la production. Je me suis dit, c'est pas possible, il ne peut pas y avoir que ce modèle-là qui donne un avenir à une agriculture et une alimentation. Parce que si des agriculteurs ne peuvent pas vivre de leur métier, forcément, à un moment, il y aura un problème sur les questions d'alimentation. Et c'est comme ça que j'ai rencontré la bio et que j'ai commencé, dans les débuts des années 80, à consommer bio. Et puis à faire ma propre reconversion, et puis quelques années après, à monter un magasin à Blois de produits bio.
Quand on voit par exemple dans la scène que vous relatiez, notamment le fait qu'il y avait des agriculteurs conventionnels et agriculteurs bio, en fait ils étaient de bonne foi parce qu'ils étaient venus pendant cette réunion, mais je pense que aussi le fait de s'écouter soi-même et d'écouter son corps, quand on voit par exemple dans une scène où on voit par exemple les agriculteurs qui tombent malades, enfin, qui saignent du nez, pendant qu'ils aspergent leurs produits, vous n'allez pas me faire comprendre, enfin, pas me faire croire que c'est un déni de connaissances. Quand on s'écoute soi-même et quand on voit qu'on est malade et qu'on a un problème, ou alors que, par exemple, on écoutait aussi l'agriculteur qui disait qu'il élevait des poules mais qu'il ne mangeait pas ses productions. Donc c'est que les gens savent quand même qu'il y a un problème, mais qu'ils veulent pas, enfin, qui pour moi ferment les yeux et font semblant d'être heureux, c'est qu'on est vraiment dans un sale pétrin, à mon avis.
Le déni, il peut être par rapport au risque économique qu'il prendrait pour lui, pour sa famille, s'il changeait. Il peut être lié à plein de sortes de peurs.
Pour les agriculteurs, c'est pas simple de faire du bio, hein, socialement parlant. Un paysan qui se met au bio aujourd'hui, il se fait montrer du doigt. La vie est vraiment pas facile pour lui, après, par son propre environnement, ses propres voisins, ses premiers voisins, les gens qu'il contacte tous les jours, hein. Mais vous savez, quand ils ont lancé le Roundup, ce qu'ils ont fait comme pub, le patron de Monsanto a bu devant les caméras du Roundup au verre en disant c'est un produit bio, c'est pas toxique. Je ne sais pas ce qu'il y avait dans le verre, s'il a vraiment bu ça, mais n'empêche que les commerciaux qui ont vendu du Roundup pendant des décennies ont fait la même chose. Hein.
C'est vrai que le maire de Barjac, on en aimerait dans toutes les communes. Hein. Il est formidable ce maire. Ça réconcilierait avec la politique. C'est la vraie politique, ouais. Mais il le dit bien, il explique bien le rôle qu'il fait, c'est pas politiquement intéressant, il s'attire pas des voix comme ça. Hein, c'est...
Le printemps de l'éducation sur Studio ZEF. Je rencontre tout d'abord David, qui est parent et secrétaire de l'école de Montessori à Blois. David va nous expliquer comment il en est venu à s'intéresser à cette pédagogie.
Donc oui, mon lien avec Montessori, donc, j'ai une famille qui est assez ouverte à ça, et en fait on a pris l'habitude de se voir tous les ans en faisant une grosse cousinade où on débarque dans un camping à 50, et donc c'est génial parce que j'ai des cousins qui sont dans toute la France avec des expériences différentes, et donc j'avais déjà une ouverture, une curiosité par rapport à ces sujets-là, et puis c'est resté comme ça dans un fond culturel, on va dire, chez moi, et puis quand on a pris la préparation de l'accouchement pour mon premier garçon, premier enfant, on a choisi l'autonomie parce que c'était le seul truc où il y avait de la place pour le papa. Et moi, je voulais être impliqué dans la préparation à l'accouchement. Et puis, de fil en aiguille, avec la sage-femme avec qui on préparait, elle dit « Mais vous savez, il y a une conférence à Blois, là, sur Montessori. J'ai l'impression que ça pourrait vous intéresser. » Donc, moi, j'avais déjà entendu. Je dis « Bon, ouais, allez, pourquoi pas, on va creuser un peu. C'est quoi ce truc ?» Et puis, donc, avec ma femme, on y a été. Et on est ressorti vraiment séduit par la pédagogie. Elle qui est vraiment fan de loisirs créatifs, tout ce qui passe par la manipulation, l'utilisation de la main, la sensibilité autre que l'intellect ou enfin un truc un peu plus physique et en contact sensoriel, quoi. C'était vraiment marquant. Et puis la dimension de s'adapter au rythme et à l'enfant, j'ai été marqué par Gargantua où il fallait que un éducateur pour un enfant. Bon, là, Montessori, elle propose une méthode qui s'adapte à chaque enfant, donc on a un instit pour une trentaine d'enfants qui arrivent à s'adapter à chaque enfant. Du coup, il y a quelque chose d'à la fois très individuel pour s'adapter à chacun et de suffisamment efficace pour être une éducation de masse. Donc ça, c'était aussi un argument qui m'avait beaucoup plu, parce que faire une école ou une éducation juste pour ceux qui ont les moyens de se payer un adulte pour un enfant, ça ne m'intéressait pas. Donc voilà, il y avait quand même des ingrédients assez intéressants, et du coup je me suis raccroché à l'association qui avait organisé la conférence. Je me suis dit, tiens, ah mais il y a déjà une maternelle à Blois, mais je savais pas. Et quand est-ce qu'il y aura la primaire, du coup j'aurais posé la question. Puis, bon non, c'était pas le projet, c'est resté comme ça. Mon enfant grandissait, et puis un jour, il y a une réunion, une invitation pour dire, et si on crée une primaire maternelle ? Moi, bien sûr, j'y étais. Par ailleurs, j'ai un travail qui m'amène à gérer des projets sur une durée assez longue. Donc, je m'étais intéressé à la création d'entreprise. Donc, je sais qu'une création, c'est compliqué. Et donc, j'ai dit, mon fils, parce qu'il a une petite sœur, mais mon fils n'est pas en âge de rentrer dans l'école. Mais il faut que je m'y mette tout de suite pour que ça puisse se faire pour lui. Donc, voilà, j'ai commencé à m'investir dans le projet de l'école à partir de là.
Aujourd'hui, donc, t'occupes quelle place, hein ?
Alors aujourd'hui, je suis secrétaire de l'association. Secrétaire, c'est un titre, effectivement, mais je m'occupe en particulier de la communication, où j'essaye de développer la lisibilité du message de l'école. Donc, par exemple, on était parti sur la Maison des Enfants, parce que c'est le premier nom que Montessori avait donné à sa première école. En fait, c'est un truc d'initié, donc personne ne comprend. Donc on a renommé simplement École Montessori à Blois. Ça, voilà, on est beaucoup plus clair. Et puis, je m'occupe d'animer la page Facebook de l'école. C'était au début un peu un challenge où je m'étais dit, on va mettre une publication par jour. Puis en fait, ça fait 2 ans que ça tourne comme ça. Et il y a quelques loupés, mais enfin, grosso modo, il y a vraiment une publication par jour. Et puis voilà, aussi en tant que secrétaire, je suis chargé des comptes rendus, mais j'essaye de développer un système de forum pour que chacun puisse s'emparer un petit peu d'un bout de compte rendu, partager des idées, et que le secrétaire ne soit pas tout le temps sollicité. À la limite, si on peut se passer de moi sur cette tâche, c'est encore mieux. Donc voilà, c'est aussi une façon de dire que l'autonomie qui est au cœur du projet pédagogique de Montessori, c'est intéressant qu'il soit transmis aux enfants, mais il faut aussi qu'il soit vrai au niveau de l'association. Et donc voilà, passer par des outils qui rendent autonome chacun des adhérents, c'est quelque chose qui me paraît intéressant.
Et il y a combien d'élèves à Montessori ?
Dans l'école, là, on a 17 enfants. Voilà, on a déjà commencé à enregistrer de nouvelles inscriptions pour l'an prochain. Et puis,
ça veut dire que l'effectif va augmenter là, l'an prochain ?
Oui, je pense qu'on va continuer à avoir une progression au niveau des effectifs. Et puis donc, ce que je voulais dire, c'est qu'on a une capacité d'accueillir une trentaine d'enfants. Après, on sera obligé d'envisager de déménager. Alors, ce sera un gros problème pour nous, mais voilà. Quand on est en développement, c'est plutôt intéressant d'avoir ce genre de problème.
Badir Memis, je suis le secrétaire de l'association Les Fruits du Savoir. Donc, c'est une association qui a démarré en 2012. Suite à un sondage, on a demandé aux familles si c'était favorable ou non pour l'ouverture d'une école multilingue et numérique. Après un retour positif, on a décidé de s'engager et de se lancer dans ce projet. Donc aujourd'hui, après 3 ans de travail, en 2015, on a fait donc la première rentrée scolaire où on accueille aujourd'hui 20 élèves, petite, moyenne et grande section réunies. Donc on propose 3 méthodes d'enseignement, donc la plus connue Montessori, mais également Freinet et Reggio Emilia. Donc on propose dans notre école une approche multilingue et numérique. Donc dans le multilingue, on apprend aux enfants l'anglais et l'arabe littéraire. Donc l'anglais pour le jeudi et l'arabe littéraire pour le vendredi. Donc je rappelle que c'est vraiment de l'immersion pour l'enfant. Et les numériques, voilà, on veut se baser sur les méthodes d'enseignement issues de la nouvelle technologie, comme les tableaux tactiles, pour capter un petit peu l'attention de l'enfant et l'aider à apprendre également. Donc c'est une école mixte, tout le monde peut y accéder, sans différence de culture, d'éthique. On accepte vraiment toute personne qui adhère à notre vision de l'école. Donc pour tous les parents d'élèves qui souhaitent apprendre l'anglais et l'arabe des petits à leurs enfants.
Et l'option en fait anglais-arabe, ces deux langues-là, c'est aussi par rapport au sondage que vous avez fait ?
Voilà, exactement. En fait, on a fait une petite étude avant. On a vu que notamment au niveau économique, il y avait une demande. Donc déjà l'anglais, c'est la base, donc c'est la langue que tout le monde doit apprendre. Et on a vu que dans les pays du Moyen-Orient, il y a de plus en plus de demandes notamment des expatriés de France qui partent dans ces pays-là. Donc on s'est dit pourquoi pas proposer en plus la langue arabe qui serait un plus dans les compétences de ces enfants qui, d'ici 15-20 ans, voilà quoi, ils auront une double langue. Donc nous sommes installés au 40 Terre Avenue de Châteaudun, 41 000 Blois. Donc si vous voulez nous suivre sur Facebook et nos événements, retrouvez-nous sur www.facebook.com/lesfruitsdusavoir.com. Et si vous voulez visiter le site de notre école, c'est www.ecoledusavoir.fr. Notre numéro de téléphone si besoin, 06 52 97 20 31.
Je suis Pascal, donc je suis au comité d'animation du CEL Loire et CEL de Blois. Voilà, donc ce CEL existe depuis un peu plus d'un an. Actuellement, on a une cinquantaine d'adhérents. Donc le but du CEL est de promouvoir les échanges entre les gens, les échanges de services à l'aide d'une monnaie fictive qui s'appelle le papin. C'est très original sur Blois. Et voilà, exactement. Et donc à partir de là, donc chaque adhérent qui arrive au CEL donc à 180 papins avec lesquels il peut échanger. Le principe étant la base étant à peu près de dire que une heure d'échange c'est 60 papins. Donc voilà, donc c'est un peu la base. Mais après ça, tout peut se négocier parce qu'il y a des choses qui s'échangent qui ne sont pas en termes de temps. Il peut y avoir on peut échanger des pots de confiture, des choses comme ça. Donc l'intérêt, c'est que donc ça crée des échanges et le but au final, effectivement, c'est de créer du lien entre les gens, hein, de pouvoir se rendre mutuellement des services. Voilà, donc c'est un peu nouveau, on est en train de se roder un petit peu, mais bon, ça fonctionne bien. Il y a plutôt une ambiance qui est conviviale. Hein, donc, il y a eu un précédent CEL sur Blois pendant, je crois, une quinzaine d'années, qui a un peu végété les dernières années. Et donc, il y a quelques personnes qui ont voulu repartir sur une nouvelle dynamique. Et donc, plutôt que de continuer ce CEL-là, on préfère arrêter l'ancien CEL et repartir sur ce CEL Loire et CEL. Donc, on est ouvert à la rencontre, hein, de toute façon. On a une permanence. Donc, le siège de l'association est à la Maison des Provinces.
Vous avez un site internet ?
Oui, un site Loire et CEL. Vous pouvez donc sur internet, hein. Alors c'est pareil, il est en cours de constitution, mais depuis très peu de temps on peut le consulter. Donc normalement, effectivement, il y a les informations donc du CEL, il y a les informations sur des associations qui peuvent être partenaires, et surtout pour les adhérents, il y a effectivement la liste des offres et des demandes en fait. C'est-à-dire bon, j'ai besoin d'un coup de main pour le jardinage, je vais voir sur le site qu'est-ce qui donne des coups de main sur le jardinage, je le contacte, on se met d'accord sur un échange de papins qui sont comptabilisés sur le site et puis donc ça se fait comme ça. On peut très bien, alors c'est vraiment une monnaie très fictive parce qu'il n'y a pas besoin, on peut très bien être en positif ou en négatif, c'est pas l'important. L'important c'est qu'il y ait des échanges et de la convivialité.
Une dernière précision sur le CEL. Vous pouvez retrouver la permanence de l'association à la Maison des Provinces à Blois, le troisième samedi du mois, entre 10h et midi.
Bonjour, je m'appelle Sybille Saint-Giron, je suis cofondatrice et présidente de l'association Valeureux, qui est un accélérateur de coopération et qui aide les associations en France et en Europe à améliorer leur coopération au sein de leur organisation ou entre elles par quatre axes. Les monnaies, comme nous allons le voir dans un instant, les dynamiques humaines, l'intelligence collective, les formes de gouvernance comme la sociocratie, l'holacratie et les logiciels collaboratifs. Donc je suis ici à l'école Montessori de Blois pour l'AG de la Nef pour jouer le jeu de la corbeille. Alors pourquoi un jeu sur la monnaie ? Parce que beaucoup de livres, de conférences, de théories sont dits, mais finalement c'est un sujet assez complexe où c'est pas facile de comprendre la théorie. Et donc mon souhait était de faire expérimenter la monnaie pour que les personnes, les joueurs puissent comprendre par l'expérience et ensuite pouvoir aller relire toutes les théories en ayant bien mieux compris. Donc c'est un jeu qui va nous permettre de façon très ludique et pour les personnes de 6 à 90 ans, de comprendre l'influence des monnaies sur notre vie, sur nos productions et sur nos comportements. Donc ce jeu simule une économie locale très simple et on va jouer à trois systèmes monétaires. Le premier est le troc, le deuxième est la monnaie comme l'euro, c'est-à-dire une monnaie basée sur la dette avec une banque qui centralise l'émission de billets et la prise des intérêts. Et une troisième qui est le système de crédit mutuel, ce qui est utilisé dans les systèmes d'échanges locaux. À la fin de chaque tour, on prend un temps pour compter la production qui a été effectuée par tous les joueurs et aussi pour regarder ce qui s'est passé en nous et entre nous. Et on va pouvoir comparer d'un système à l'autre où est-ce qu'il y a plus de production et où est-ce qu'on a, quels sont les types de relations qu'on a. Et l'idée de ce jeu, c'est pour vraiment comprendre que finalement, ce n'est pas forcément la nature humaine qui nous met en compétition, mais peut-être que notre système monétaire actuel nous met en compétition et que si nous souhaitons autre chose, eh bien, nous pourrions changer de système monétaire pour choisir un système monétaire qui nous permet de produire beaucoup et aussi d'avoir des bonnes relations et sans qu'un agent comme une banque extrait la valeur sans avoir vraiment travaillé de façon effective. Donc ce jeu est en licence libre. Vous pouvez le trouver sur le site valeureux.org ou en tapant sur internet La Corbeille. Tout est libre, toutes les règles sont expliquées. Je vous invite, si vous avez envie de l'animer, de venir jouer une fois, parce que même si j'ai essayé d'expliquer au mieux, c'est pas forcément facile, de regarder les vidéos et de m'écrire pour que je vous aide et puis pour me donner les statistiques, parce que depuis 3 ans qu'on le joue partout en France et en Europe et qu'il y a plusieurs gens que j'ai formés qui le jouent en Grèce, en Espagne, eh bien je recueille les statistiques pour pouvoir prouver ce que je vois qui se passe dans chaque jeu, c'est-à-dire que la monnaie dette, c'est très effectif, mais ça nous fait du mal. Donc je vous invite à aller sur le site et à vous-même venir jouer ou animer La Corbeille.
Dire commence un coup pour être sûr. On va prendre une photo. On va attendre un peu. Voilà, là c'est bon.
Dis donc, qu'est-ce que t'es en train de faire, jeune homme?
Je suis en train de faire une petite vidéo avec plein d'images.
Ah super. Et alors je vois qu'il y a alors sur la table il y a un Playmobil, une girafe, un lion, un crocodile.
Ouais, il y a plein de personnages.
Ouais. Et tu vas faire une histoire avec ça?
J'ai fini mon histoire.
Ouais, c'est une succession d'images. Et au final, ça fait...
Une vidéo. Une petite vidéo.
Vous pouvez m'expliquer un petit peu la méthode stop motion?
On appelle ça aussi animation image par image. Donc ça consiste à prendre des petits personnages, par exemple là, les petits personnages Playmobil que les enfants sont en train d'utiliser, en photo dans une certaine position. On les bouge de quelques millimètres, on reprend une photo. On les bouge de quelques millimètres, on les reprend en photo, ainsi de suite. On fait énormément de photos, on les passe dans l'ordinateur, dans un logiciel de montage, et on programme pour que chaque photo s'affiche, mettons, à une fréquence de 1/12 de seconde. C'est la norme en animation, c'est pour ça que je prends cette durée-là. Et ça donne l'illusion que le personnage s'anime tout seul.
D'accord. Donc, en fait, c'est un moyen de faire un petit film d'animation, oui. Facilement, mmh. Accessible à tous.
Oui.
C'est le but de votre projet?
C'est ça, exactement. Et on appelle ça aussi de l'animation en volume, d'ailleurs, en français. Ça fait partie, on va dire, de mon métier. Je suis professeur de cinéma.
Et vous vous appelez?
Monsieur Langlais, Benoît Langlais.
Et vous enseignez où?
Au lycée Potier d'Orléans.
Très bien. Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Alors bonjour, je m'appelle Fabrice Percher, je suis le papa de la famille Percher, nous sommes du Loiret, à côté de Gien. On est une famille de 5, donc il y a Anne, Manon, Titouan et Augustin. Alors ce projet de partir à vélo en famille pendant 6 mois, il est né d'une part par déjà l'accueil de cyclo-randonneurs chez nous, parce qu'on habite juste sur la Loire à vélo, sur l'Eurovélo 6. Et donc on a accueilli au moins une trentaine de personnes avant de partir à travers le réseau Warm Shower. Donc douche chaude en anglais, warm showers, et donc voilà, on peut accueillir des gens chez nous, et ça nous a fait découvrir en fait le voyage, l'envie de voyager, et on n'avait pas eu l'occasion de le faire avant en fait d'avoir les enfants, et à un moment donné en fait on s'est dit est-ce que parce qu'on a des enfants on ne peut rien faire, et on avait eu l'impression de cocher toutes nos croix, c'est-à-dire qu'on avait une maison, on avait un travail, on avait fondé une famille, on avait fait un petit peu tout ce qu'on nous demande de faire quand on est des jeunes adultes. Et on s'est dit, maintenant, qu'est-ce qu'il faut attendre? Est-ce que c'est la retraite? Et on s'est dit, non, à 35 ans, on n'attend pas la retraite. Et voilà, ça nous a lancé. Et on s'est dit, il faut qu'on parte. Et on a demandé, en fait, on est enseignant, on est professeur de PS. Et on a demandé un mi-temps annualisé qui nous a permis, en fait, de travailler la moitié de l'année à plein temps en gagnant moitié de notre salaire. Et la deuxième partie, ça nous a permis de partir en voyage et on gagnait toujours moitié de notre salaire. C'est un mi-temps lissé sur l'année. Comme ça a été accordé, du coup, après, on était obligé de partir. Donc, on est parti au mois de février. On a ensuite essayé de regagner la côte atlantique. Donc ça nous a pris à peu près 3 semaines, où on a été accueillis que chez des gens dans des maisons, soit par le réseau Warm Shower, soit par des amis ou des amis d'amis, ou des gens qu'on a rencontrés par hasard, voilà, soit sur internet en demandant si c'était possible de dormir pour une nuit. Et ça, on a fait ça donc 3 semaines pour arriver jusqu'à la côte atlantique. On a commencé à bivouaquer le 16 mars. Et à partir de là, on est descendu vers les Pyrénées et on a alterné à la fois des bivouacs, donc bivouacs vraiment en pleine nature, et à la fois des accueils chez des gens Warm Shower ou autres, ou familles. Et on a fait notre premier camping juste à la sortie de la France à Nice. C'était vraiment notre premier... Enfin, à Cannes, exactement, juste avant Nice. C'était notre premier camping. Et après, on a basculé vers la Corse. Voilà, où on a vécu quelques péripéties, notamment notre arrivée dans le Cap Corse et un bivouac qui s'est mal terminé avec des cocktails Molotov sur les tentes. Bon, on a essayé de positiver. On a changé nos tentes parce qu'elles étaient vraiment abîmées. Et on avait quand même envie de continuer. Ça ne nous a vraiment pas déprimés. Au contraire, on s'est dit... on doit tirer un enseignement de ça. Et ce qui fait qu'après, on a fait des bivouacs toujours plus sécurisés. C'est-à-dire qu'on allait voir les gens, on leur demandait si ça posait souci de dormir à côté de chez eux, pas forcément chez eux, mais à côté. Et leur dire aussi que si on avait un souci dans la nuit, si quelqu'un venait taper chez eux, c'était nous. Et donc ça nous a sécurisés. Et je pense que cet incident qui est arrivé nous a permis de peut-être d'éviter quelque chose de plus grave plus tard. Donc on essaie toujours de tirer du positif des expériences. Et après, on a été visiter la Sardaigne. Après, on a visité Rome. C'était un des gros objectifs du voyage. On est resté 7 jours sur Rome pour prendre le temps de visiter avec les enfants. Et après, on a pris un train pour éviter les Alpes, parce qu'on avait quand même déjà grimpé beaucoup entre la Corse, la Sardaigne et l'Italie, avec toute la région de Sienne, de Florence, où ça grimpe beaucoup. On a pris un train qui nous a amené jusqu'à Munich. Et après, on s'est dit encore un petit peu de côte. Donc, on a pris la Bavière. Donc, pareil, c'est quand même très vallonné. Et on a passé on a suivi le Rhin ensuite, plus plat, pour regagner après Colmar et après récupérer l'Eurovélo 6, qui nous a ramené tranquillement chez nous. Donc voilà, c'était 125 étapes de vélo.
Ça fait combien de kilomètres alors en tout ?
Alors au total, on a dépassé les 5000. Ça faisait 5015. Voilà, symboliquement, on avait dépassé les 5000 kilomètres. Alors en fait, on était parti avec finalement du matériel un peu standard, un peu n'importe qui pourrait partir avec notre matériel. Il suffit d'avoir des sacoches, d'avoir un porte-bagages, et puis c'est parti en fait. Donc les sacoches, on avait pris quand même des sacoches de bonne qualité, mais qu'on avait trouvé quand même sur le bon coin, en essayant de s'arranger pour trouver des sacoches étanches. Parce que je crois que le pire pour un voyageur, c'est que ses affaires soient mouillées. Et quand toutes ses affaires sont mouillées, le voyage est terminé. On ne peut plus rigoler. Donc voilà, les affaires étanches. Une tente de bonne qualité et autoportante, c'est-à-dire qu'on peut la mettre même sur du dur sans planter des piquets, parce que des fois on a dormi dans des corps de ferme ou dans des étables et on pouvait mettre la tente, il n'y avait pas besoin de planter des piquets. Et après finalement il faut très peu de choses parce qu'on ne peut pas emmener grand chose, sinon on est très lourd, et si on est lourd on n'avance pas. Pour manger, on allait vraiment faire les courses un peu épicerie et puis petit commerce. Et on a essayé de manger de plus en plus beaucoup de fruits et de légumes, surtout qu'on était dans des régions où ça permettait de manger des fruits et légumes facilement.
Et est-ce que vous avez eu un accueil, à part ce malheureux épisode avec les cocktails Molotov, est-ce que vous avez eu en général un accueil plutôt agréable, plutôt sympa, de la part des gens, de la curiosité, j'imagine, aussi ?
Alors, je crois que déjà, le fait de voyager en famille, c'est une vraie carte d'entrée, en fait, chez les gens, parce que c'est épatant. Il y en a certains qui disent « Mais pourquoi ces enfants ne sont pas à l'école ?» Donc, ça interroge, et donc, ça crée forcément la discussion. Et la plupart du temps, c'est des applaudissements ou des gens qui s'arrêtent, qui font un sourire ou qui klaxonnent. Et voilà, c'était quand même vraiment... l'accueil était toujours très chaleureux.
Ouais. Je crois qu'on peut retrouver vos aventures sur un site. Vous avez créé quelque chose sur Internet, ouais.
Oui. En fait, on a tenu un blog pendant toute tout notre voyage. On s'appelle 10 coups de pédale, donc 10 en chiffres. Coups de pédale, COUPS, donc 10 coups de pédale, wordpress.com. Voilà, on tape 10 coups de pédale, on nous trouve, et après on peut même visionner notre petit film, on peut le télécharger. Il est à disposition et ça dure 52 minutes, un peu comme un documentaire, mais on n'a pas l'audace de dire que c'est un documentaire, parce que c'est vraiment un petit film de souvenirs de famille, mais ça permet de voir un petit peu ce qu'on a vécu.
Juste une dernière chose, vos enfants, quels souvenirs, comment ils ont vécu ça, voilà, un petit mot sur eux.
Alors on va dire le premier mois, il y avait quand même la difficulté physique qui était là. Donc on a eu quand même des petits messages, notamment Tizouan qui disait « C'est votre voyage, c'est votre projet, c'est pas le nôtre, on retournerait bien avec les copains ». Ça a duré un mois, puis finalement après, ils étaient quand même très contents d'être en voyage. Après voilà, c'est comme tout, hein, comme tout, même dans la vie de tous les jours, il y a des moments où c'est difficile, mais il y a aussi énormément de rencontres et puis énormément de temps partagé en fait. Et je crois que c'était ça quand même le plus important, c'est tout ce temps qu'on passe ensemble.
En sortant de l'école, nous avons rencontré un grand chemin de fer qui nous a emmenés tout autour de la terre dans un wagon doré. Tout autour de la terre, nous avons rencontré la mer qui se promenait avec tous ses coquillages, ses îles parfumées, et puis ses beaux naufrages et ses saumons fumés. Au-dessus de la mer, nous avons rencontré la lune et les étoiles sur un bateau à voile. Partons pour le Japon et les trois mousquetaires des cinq doigts de la main, tournant la manivelle d'un petit sous-marin, plongeant au fond des mers pour chercher les oursins. Revenons sur la terre, nous avons rencontré sur la voie de chemin de fer une maison qui fuyait, fuyait tout autour de la terre, fuyait tout autour de la mer, fuyait devant l'hiver qui voulait l'attraper. Mais nous sur notre chemin de fer, on s'est mis à rouler, rouler, rouler derrière l'hiver, et on l'a écrasé et la maison s'est arrêtée et le printemps nous a salué. C'était lui, le garde-barrière, il nous a bien remercié. Et toutes les fleurs de toute la terre soudain se sont mises à pousser, pousser à tort et à travers sur la voie de chemin de fer qui ne voulait plus avancer de peur de les abîmer. Alors on est revenu à pied, à pied, tout autour de la terre, à pied, tout autour de la mer, tout autour du soleil, de la lune et des étoiles, à pied, à cheval, en voiture et en bateau à voile. Nous avons rencontré un grand chemin de fer qui nous a emmenés tout autour de la terre dans un wagon doré.